Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugar Free. Aujourd'hui, j'ai pu parler à David Revoy, qui est illustrateur, graphiste et surtout auteur de BD, auteur de la BD Paper and Card, qui est traduite à l'international. David, il a la particularité d'avoir voulu que ses créations soient sous licence Creative Commons. Donc en gros, c'est une sorte de licence libre. Et ça nous a permis de justement de parler de nos philosophies sur la rémunération des artistes, mais aussi de tout ce qui constitue les intermédiaires, comme peut-être les maisons d'édition, les prods, etc. Et on a parlé de ça, et puis comme c'est quelqu'un de très renseigné, de très intelligent, on a aussi profité pour parler de ce que tout le monde appelle la révolution de l'art numérique, c'est-à-dire tout ce qui est NFT. Donc en gros, c'est quelque chose qui utilise la technologie des crypto-monnaies. Alors voilà, ça paraît très difficile comme ça, mais je crois qu'en fait, on en parle et on l'explique plutôt bien. Donc voilà, c'est d'une pierre six coups cet épisode. Vous allez apprendre plein de choses. C'est une discussion super intéressante. Je ne sais plus parler. Et vous savez quoi? Je ne vais quand même pas monter ça. Je vais vous laisser comme ça cette intro avec ce petit bafouillement. Cliquez sur tous les liens que j'ai pu mettre de David. Allez voir son site, allez voir son webcomic Paper and Card. C'est gratuit, donc déjà vous allez pouvoir revoir les planches. Et si vous aimez, vous lui commandez des tomes. Et pour moi, comme d'habitude, 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous vous dites, est-ce que vraiment ça sert? Et en fait, dès qu'il y a une nouvelle note sur Apple Podcast, sur un podcast, ça propulse directement le podcast dans le classement. Donc n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles. C'est pareil pour Podcast Addict. Dès que vous voyez mon podcast quelque part et qu'il y a un système d'étoiles ou de notation, foutez le maximum. Hein, voilà. Et également le Patreon, donc patreon.com/sugarfree pour avoir accès à des épisodes en version longue, les director's cut, aux vidéos de certains épisodes, et puis des épisodes bonus également. Voilà, je vous laisse vous régaler avec cet épisode. Bisous à tous, n'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions, des mails. Merci d'ailleurs à ceux qui le font. Hein. J'adore lire vos mails. Et peut-être, vous savez quoi, à partir de la fois prochaine, je les lirai en intro. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, par exemple, ce que vous avez pensé de cet épisode avec David. Et comme ça, je débrieferai avec vous. Voilà. Allez, bisous.
Donc je devais avoir 15-16 ans et c'était j'avais le choix entre avoir une mobilette ou avoir un scanner, tu vois, c'est pour le prix quoi. Et à l'époque, pour brancher un scanner sur l'ordinateur, il fallait mettre une carte spéciale sur la carte mère, tu vois, de l'ordinateur. Il fallait ouvrir l'ordi, ouais. et puis le bricoler. Donc je savais pas si je pouvais le faire. Le gars en magasin me disait, mais alors il faut que tu démagnétises les mains contre le truc, tu fasses attention, sinon tu peux tout broyer à l'intérieur. L'ordinateur coûtait super cher dans la famille, tu sais. Et je me suis lancé, mais l'avantage était que mon crayonné ou que mon ancrage, mes lignes que je faisais de mes planches de BD quand j'étais ado, je pouvais soudain les scanner, les avoir sur écran et les remplir avec un pot de peinture, tu sais, pour les couleurs ou des choses.
Ouais.
Et mettre du texte avec des vrais typos, quoi, des vraies fontes. Parce que faire les fontes à la main, quoi, c'est le bordel, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais du coup, ça veut dire que, en termes d'art numérique, toi, dès ton adolescence, t'as commencé à te familiariser avec, en fait.
Oui. J'ai vraiment le parcours de la génération charnière entre traditionnel et numérique, mais même au niveau internet et pas internet, quoi. J'ai eu les premières Wanadu, les trucs comme ça.
Ouais.
J'ai fait les premiers chats caramel en faisant le compte dessus. Enfin bon, voilà, tout.
Ouais, pareil. Non, mais c'est pas mal parce qu'il y a, mine de rien, d'être dans cette génération du pont, il y a le côté, bah, on sait, quelque part, le travail à fournir avant avoir certaines facilités. Mais aussi, si on arrive au moment de la création de ces facilités-là, on a appris comment, justement, elle se crée elle-même. C'est-à-dire que moi, je me souviens... Enfin, j'ai Photoshop depuis, tu vois... Enfin, bien sûr, je ne l'ai jamais acheté.
Moi, je l'ai acheté.
Mais oui, maintenant. Non, mais à l'époque, tu vois. À l'époque, genre, non, j'étais adolescent. Jamais j'allais me payer un logiciel de 5 000 $. Mais y avait le côté où... c'est-à-dire que j'ai vu et je sais ce qui n'était pas possible à l'époque et ce qui est possible maintenant, etc. Et mine de rien, ça... ça t'apprend toi-même aussi à savoir l'utiliser, en fait. Ça.
Oui, oui. Et puis moi, c'est surtout, j'ai vu en fait le. Pour moi, quand Internet est arrivé, je me suis directement enfoncé dans tout ce qui était le logiciel libre, Wikipédia et tout ça. Et pour moi, c'était la réponse. Ça y est, le monde allait changer, tu vois. L'information, on avait accès à tout. J'avais des forums. Je rencontrais les peintres que j'adorais. Des choses que je voyais qu'en artbook, en magasin d'import, tu sais. Les gars s'exprimaient sur ces forums-là pour partager leurs trucs de peinture. C'était à se faire sauter la cervelle, quoi. C'était génial, quoi.
Ouais, d'avoir ce contact qui était réservé qu'à des privilégiés avant.
Ouais, et puis, par exemple, une chose, et là, c'est par rapport à la discussion qu'on voulait avoir sur les NFT, tu vois, c'est ce côté que Internet devenait une machine à photocopier géante où tu pouvais mettre un dessin et il allait s'afficher, mais sur tous les écrans, il n'y avait pas de problème de rareté. Tu vois, il y avait... Tu mettais un dessin et tout d'un coup, il n'y avait pas de problème d'impression, d'encre, pour avoir 5000 tirages ou quelque chose. Il pouvait s'afficher sur des centaines de milliers d'écrans en même temps. Et ça, c'était aussi une révolution. Alors, c'est vrai qu'avec ce truc de NFT où on veut revenir à de la rareté, pour moi, c'est une régression, mais formidable, quoi. Je regarde ça et je me dis, mais ouais, ceux qui ont vécu ma génération, qu'est-ce qu'ils sont en train de... Voilà, et c'est pas... Ils ont oublié un truc, quoi.
Mais après, toi, t'as, bah justement, le fait d'avoir vécu un peu le côté démocratisation de l'art et de la création, c'est-à-dire pouvoir l'envoyer, comme tu dis, à littéralement tout le monde qui a accès à Internet, sans te dire j'ai besoin justement d'un contrat avec quelqu'un, et il va me dire non, peut-être c'est trop de tirages, c'est pas assez de tirages, etc. Toi, donc, tu t'es un peu créé aussi ta philosophie. Par ça. Et d'ailleurs, maintenant, toutes tes BD, elles sont en licence libre, du coup.
Ouais, c'est ça.
C'était difficile à faire passer ça de base quand t'as...
C'est difficile parce que de 2000 à 2010, même si le média existe déjà, c'est-à-dire Internet, tu peux poster une planche, je peux faire j'avais ma tablette graphique, au niveau de comment je pensais, c'était toujours verrouillé au système d'avant, c'est-à-dire... j'attendais qu'un éditeur m'approuve parce qu'il y avait pour moi des grands totos comme ça qui géraient la qualité, l'art direction de ce qui était commercial ou pas. Et donc, j'essayais de trouver ce genre de... J'ai le nom anglais qui me vient, je suis désolé, je fais le Jean-Claude Van Damme là. Le approval, tu vois, le...
Ouais.
Comment on dit en français
le fait
de se faire valider, voilà. J'attendais une validation. De la part de mes pairs, tu vois, et ça passait pour moi sur les forums qui donnaient des sortes d'awards. Tu sais, ils te mettent le dessin en haut du forum, il y en a 5 comme ça par mois, et ils te marquent award, et puis sur ton profil, après, t'es marqué machin award du forum, quoi.
Ah, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, toi, tu dis, Internet me permet de court-circuiter le côté éditeur/producteur qui rend les choses plus commerciales, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est juste les gens dont j'aime bien les dessins qui me disent « bah ouais, c'est bien ». C'est ça que tu veux dire?
Non, c'est au tout début, je ne me serais pas lancé directement dans la BD comme ça parce que je ne me sentais pas légitime. Parce que j'étais encore toujours dans l'ancien monde où il y avait les gens qui étaient en amateur, qui n'avaient pas d'éditeur. Ah, et quand tu l'envoyais à l'éditeur et que lui, avec son art direction et puis sa collection d'édition, te disait « ça y est, tu es mon petit, tu es devenu un pro, quoi, tu es... C'est ça. Et il y avait ce monde séparé en deux, en fait, avant. Et quand Internet est arrivé, eh bien, pendant les 10 premières années, il y a encore eu ce monde qui était là. Et ça se sentait, il y avait les pros, et les pros se distinguaient par ces awards, ces choses qui montraient, et ces nouveaux éditeurs étaient les forums, étaient les choses. Et ça a glissé un peu vers les années 2010 avec les réseaux sociaux, où les pros sont devenus ceux qui ont le plus de likes, de repartages.
Ouais.
Tu vois, c'est... quelque part, il y avait une sorte de... d'aspect, on va dire, plus démocratique avec le, ce qu'il y a de mieux et de moins bien là-dedans, quoi, parce que celui qui va faire des dessins, qui va montrer des gros boobs ou des choses comme ça, va avoir plus de likes, et ça veut pas dire plus de qualité, likes, voilà. Donc,
Non, mais c'est comme si, en fait, on passe d'une fonction discrète, binaire, tu vois, où j'ai un producteur ou j'ai pas un producteur, à un peu plus lisser et avoir une courbe et pouvoir se dire, ben, en fait, je peux, ne pas... avoir un producteur, mais j'ai tant de followers et je sais,
enfin, voilà, j'ai plus besoin,
ma création vaut ce qu'elle vaut, quoi, en
fait. Ça, j'ai plus besoin d'être validé par quelqu'un qui a l'expérience et qui a la position, mais c'est l'audience directement qui me valide. Et ça, c'était présent dès le début, hein, c'est dès 2010, dès que j'avais ma tablette graphique et les premières Wanadoo et compagnie, mais j'ai pris peut-être 10 ans avant de, ben, que dans la tête, ça change, simplement. Que je vois que, en fait, cet intermédiaire, ben, il n'existait plus. Il n'avait plus vraiment droit de citer, quoi.
Mais tu dirais que... Parce que, OK, ça t'a pris 10 ans dans ta tête à toi pour te dire, c'est fini. Mais tu dirais que la plupart de l'industrie de l'art numérique, enfin, de l'art en graphique, plutôt, on va dire, ça... Elle l'a à combien de pourcents quand même l'ancienne version du monde, c'est-à-dire avec le côté éditeur ou pas éditeur. Parce qu'en fait, j'essaie de faire le parallèle un peu avec ce qui se passe justement dans l'humour, dans le visuel, etc. Ben, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça arrive aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se disent, ben ouais, mais en fait, j'ai pas besoin de producteur, entre guillemets, parce que techniquement, ben, j'ai tant de followers, parce que je fais des trucs drôles sur Internet, etc. etc. Cela dit... il y a quand même une sorte de verrouillage à certains niveaux par ces producteurs qui disent non, mais en fait, nous, on est quand même là pour, encore une fois, comme tu dis, valider que tu es dans la cour des grands. Alors qu'en fait, si toi-même, tu loues un théâtre, bah, tu vas quand même avoir tes followers qui vont venir, tu vois. Donc, c'est... Du coup, moi, je dirais qu'en tout cas, dans l'art audiovisuel, c'est toujours... bien présent, en tout cas c'est palpable, tu vois. Mais est-ce que
il y a eu un bon retour,
c'est encore plus
pour moi, ça y est, les industriels maintenant ont bien compris que ça se passait sur le virtuel, sur le net, et bah, tu connais cette main invisible de l'algorithme, hein.
Oui.
Bon, je veux pas rentrer dans un discours de conspiration, mais on voit qu'il y a certains qui ont des facilités et pas d'autres.
Ah non, mais voilà, clairement. Donc, j'en parlais à des potes justement avec qui on publie des vidéos, et j'ai fait des tests. C'est sûr que je suis, par exemple, que pendant une période, après avoir posté une vidéo un peu, on va dire, edgy, j'étais shadowban, quoi. Et c'est sûr, genre, tu vois, ma meuf qui me recherche sur Instagram, elle met A-R-E-Z-K, j'arrive en 7e position, alors qu'elle me suit, tu vois.
Ouais.
C'est vrai que, bah oui, si tu mets des boobs, etc., même la plateforme aussi va t'aider, plus que juste le cerveau humain qui aime les boobs.
Oui, et ça se voit beaucoup, par exemple, à notre époque. Moi, je le vois par rapport au fan art dans l'art numérique. C'est-à-dire qu'à partir de 2005, il y a eu un passage où il fallait... Enfin, tout le monde avant faisait de l'art original. Original création, comme on disait, voilà.
Ouais.
Mais on n'avait même pas besoin de le dire. C'était normal, chaque artiste faisait sa création personnelle. Ouais. Et à un moment donné, il y a eu un basculement. Et tout le monde faisait des fan art. Tout le monde faisait dessiner un personnage d'un dessin animé ou de quelque chose. Et quand on faisait quelque chose de personnel, il fallait le noter. Il fallait mettre hashtag OC.
Original creation,
voilà,
c'est
ça, ou original caractère, ça marche pour les deux.
D'accord.
Et moi, je commençais à trouver ça horrible. D'ailleurs, je ne le mets toujours pas parce que j'aime pas ce truc-là. Mais à la fois, la proportion de fan art maintenant est tellement démentielle que tout le monde assume que, ah oui, on redessine que ça, on redessine, parce que le personnage de tel dessin animé m'a inspiré ça. Et ça fait beaucoup de succès parce que ça réunit les communautés, ça fait... Et derrière,
la nostalgie aussi.
Voilà, et les industriels, ils en profitent à mort. Parce que ça fait de la pub. Comment raviver la flamme d'un Zelda 100 000 fois si tu as le fan art de Zelda du jour qui vient t'afficher en permanence?
Mais c'est une facilité énorme. C'est vrai que... Bah en fait, je parlais de ça justement pour parler de... C'est un peu l'effet TikTok, ce qui est très marrant parce que sur TikTok, la plupart des... Il y a des choses très drôles et totalement originales, mais il y a un truc très bizarre qui est de prendre le son de quelque chose d'autre et de ne faire que le copier. C'est-à-dire, tu fais exactement la même vidéo drôle de quelqu'un d'autre, mais juste avec ta tête. Et t'es là, tu fais, mais c'est pas votre idée, en fait. Quel est l'objectif, en fait, de ça? Et je trouve ça un peu bizarre parce j'ai l'impression que ça habitue le monde entier à juste avoir peur de s'exprimer vraiment soi. C'est-à-dire, mais en fait, quelle est la vanne que toi, t'as envie de me faire, tu vois? Et c'est pareil, quel est le personnage que t'as envie de me dessiner?
Oui.
Va pas copier.
Et derrière tout ça, il y a aussi un géant problème de copyright, parce que la personne qui met une musique et puis qui va faire ça, elle va se croire, bah génial, j'ai fait une création, mais c'est un produit dérivé d'un ayant droit. Et l'ayant droit, comme c'est un produit dérivé, bah, il a le droit dessus. Alors après, il y a ce fameux fair use en loi, parce que la plupart sont des serveurs américains, donc on est soumis à cette loi-là, qui dit que bah oui, si c'est pas commercial, ça va, quoi, tu peux en gros, mais il faut pas que ça fasse de l'ombre à la marque. Enfin, il y a plusieurs points comme ça, il y en a quatre dans le fair use, je vais pas te les détailler.
Oui, c'est-à-dire que je crois que t'as le droit de faire des parodies justement.
Non, t'as pas le droit.
Non, c'est pas ça.
En France, t'as le droit à l'aspect parodique. Ah. Le fair use va être sur la proportion du nombre d'éléments que tu es en train de reprendre. C'est-à-dire, si tu reprends rien que le chapeau de Link dans Zelda, ça te paraît pour un caméo. Ça, c'est fair use, c'est OK, même si ta BD est commerciale. Si tu reprends, par contre, son épée, son bouclier, la même coupe de cheveux, là, ça fait quand même pas mal d'éléments.
C'est trop, oui. Ouais.
Donc, et toujours, c'est à la discrétion quand même d'un jury. C'est-à-dire que pour jurer, pour dire si c'est trop ou pas assez, c'est pas toi qui le dis non plus.
Oui, d'accord.
Voilà. Après, il y a si c'est commercial ou pas, surtout si ça fait de l'ombre au produit original. Il y a une autre règle qui est si c'est fictionnel ou pas fictionnel. C'est-à-dire que si tu refais, par exemple, un fan art de Apollo 13, ça a réellement existé. Le film Apollo 13 n'a pas le droit de te poursuivre pour ça. À moins que si tu reprends la tête de Tom Hanks, là, c'est leur produit.
Ouais.
Voilà. Et puis, en plus, Tom Hanks, il sera pas content lui-même. Sauf si ça le dépeint dans une bonne lumière, quoi, bien sûr.
Ouais.
Et puis, il y a encore une autre règle qui est par rapport au pourcentage de l'univers utilisé, donc par rapport à ce truc de dérivation ou pas. Donc, en gros, c'est une zone très grise qui fait que s'ils ont envie de poursuivre quelqu'un et de gagner, ils le font, en fait, presque à chaque coup.
Oui, bien sûr. Mais toi, le fait que, par exemple, tes BD, tu les aies mis en licence libre... Regarde, bah, si moi j'ai envie de faire des trucs, justement du fan art, voire même une autre BD où Pepper and Carrot se battent contre des vampires.
tu peux.
J'aurais techniquement le droit de le faire. Qu'est-ce que toi tu. J'imagine que pour un artiste, recevoir du fan art, c'est quand même cool parce que on se dit.
C'est génial. C'est de la pub.
On se dit, voilà.
Et puis,
mais c'est quoi, à partir de quand toi tu peux ressentir un petit oula, je sais pas comment je me sens par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire?
En fait, dans le droit d'auteur, parce que Creative Commons en fait est une sorte de licence qui vient supprimer certains droits que le droit d'auteur te donne de base dès que tu fais quelque chose. En gros, dès que tu fais une création, t'as le droit d'auteur qui vient de ton pays, paf, qui se met dessus. C'est comme si tu avais le copyright, le C, qui est directement mis d'office. Et donc, en mettant une licence Creative Commons, je vais plutôt renoncer à certains droits. Mais il y a certains droits du droit d'auteur que j'ai encore. Par exemple, le droit moral. On va dire que, disons une connerie, par exemple, un parti politique que je n'aime pas, un peu fascisant ou quelque chose, se dit « je vais me mettre sur mon drapeau carotte ». Et ça va être notre nouveau symbole. Et puis même, je vais respecter la licence, je vais marquer « carotte fait par David Revoy » ou quelque chose. Là déjà, moi, ça passe pas parce que je peux faire jouer mon droit moral. Je n'ai rien à voir avec leurs idées. Et en plus, je trouve que ça nuit à ma réputation et que ça nuit au message que je veux faire passer. Donc, dans ces cas-là, oui, je peux aller en justice et avoir mon droit moral.
D'accord.
Ensuite, s'il marque, par exemple, n'importe qui marque, j'ai réutilisé, toi, pour, par exemple, Pepper et Carotte contre les vampires, le travail de David Revoy, et en plus, tu marques, et en plus, David Revoy me l'a fait pour moi, et il est dans mon projet. Par exemple, tu fais un Kickstarter et tu dis, ouais, David Revoy s'est associé à moi pour faire Pepper et Carotte contre les vampires.
Ah.
Il me fait tous les designs de Pepper et Carotte, ça, c'est pas vrai. Et à la fois, tu réutilises, donc c'est un peu vrai. Mais ça s'appelle abuser la paternité. C'est pas cool, quoi, en gros. Ça, je peux dire non, parce que dans la licence Creative Commons, il y a quelque chose qui dit tu peux réutiliser, mais sans que l'auteur t'ait donné expressivement l'accord ou le...
D'accord.
Voilà, c'est...
Donc, il y a quand même, sur le Creative Commons, sur cette licence, il y a quand même... En fait, on redonne plus de pouvoir à l'auteur tout en laissant libre cours à l'imagination de plein de gens pour pouvoir utiliser ta création.
Ce que ça essaye de solutionner comme problème, les Creative Commons, c'est tu arrives sur une page Internet, tu vois un dessin qui est cool, qui t'inspire, qui veut faire quelque chose d'autre, et... Avant, la seule solution que tu avais, c'est de faire un email à l'auteur et dire « Est-ce que je peux réutiliser machin ?» Creative Commons, c'est simplement une poignée de main qui est marquée et de dire « Voilà, là, tu peux l'utiliser. » Alors, il y en a plusieurs de Creative Commons. Il y a des sortes de lettres à la fin. Tu as la « by », c'est celle que j'utilise. Ça veut dire « attribution ». Ça veut dire « Moi, je demande à ce que tous les personnes qui ont participé sur le projet marquent leur nom. » Par exemple, il faut que tu dises « Moi, c'est Pepper et Carotte contre les vampires. » Basé sur une œuvre originale Pepper et Carotte par David Revoy.
D'accord.
Voilà. Ça c'est correct.
Ok.
Il y a la NC, non commerciale. Là, la personne dit, tu peux réutiliser, mais il ne faut pas que le résultat soit commercial. Voilà. Il y a la ND, tu peux réutiliser, mais il ne faut pas que ça soit dérivative, non dérivative. C'est-à-dire, tu réutilises l'image ou la musique ou la pièce telle qu'elle est. Je ne veux pas que tu changes des choses, que tu mettes une voix bizarre ou quelque chose. Non, c'est pour les gens simplement repartager, en fait. C'est l'invitation au repartage. Et puis, il y a la share alike, qui est un peu plus difficile, SA, qui veut dire je veux que tu réutilises la même licence que j'ai réutilisée. C'est-à-dire que si tu fais, par exemple, Pepper et Carotte contre les vampires, je veux que...
Moi aussi, je devrais être en Creative Commons.
Et là, c'est viral. C'est-à-dire que tout ce qui va dériver de la pièce sera toujours sous Creative Commons sans permissif. Parce que avec moi, celle que j'utilise, buy, parce qu'après, tu peux combiner, c'est-à-dire dire je veux l'attribution, buy, mais je veux aussi pas commercial, NC.
Ouais,
et voilà, d'accord. C'est pour ça qu'on voit toutes ces lettres bizarres sous les Creative Commons, dire CC pour Creative Commons, NC, buy, SA. Là, tu as un combo genre je veux pas que ça soit commercial, je veux que tu repartages la même licence et que tu attribues les noms.
D'accord. Okay.
Bon, mais en gros, le grand public, eux, disent « Ah ouais, licence Creative Commons ». Voilà, et ça veut rien dire, tout seul.
Oui, d'accord. Oui, tout seul, ça va. Mais dans les faits, est-ce qu'il n'y a pas, au final, alors même si c'est illégal, est-ce qu'il n'y a pas mal de gens, tu vois, qui copient, qui font un peu leur sauce de n'importe quoi, de Disney même, tu vois, combien de Tumblr il y a sur Frozen, tu vois, etc. Et du coup, et bien sûr, enfin, après, Disney peut, à tout moment, du coup, t'attaquer, mais ça leur va bien si, en fait, j'imagine, tu continues à faire de la viralité sur la Reine des Neiges, quoi.
Ben oui.
et tout le monde y pense, et puis quelqu'un achètera le Blu-ray en plus. Mais c'est quoi, alors, c'est quoi, du coup, pour toi, la différence de se positionner dans ça ? C'est parce qu'en fait... est-ce qu'il n'y a pas un petit côté d'éducation des gens que tu as envie de faire aussi ? Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens où, comme de toute manière, effectivement, tu peux empêcher, tu vois, le RN, justement, de mettre Carotte avec Marine Le Pen. Mais, donc, quand même, c'est-à-dire le plus, entre guillemets, le plus important qui serait vraiment de te piquer tes créations pour faire vraiment un truc que tu détesterais, versus le fait qu'on puisse utiliser les choses. Ce qui est, comme je disais, en pratique, en vrai, tout ce qui est faisable avec pourtant du copyright, ça t'apporte quoi, toi, personnellement, de te dire « Bon, non, en fait, c'est Creative Commons pour moi ».
Bon, déjà, il y a une sorte de petite fierté personnelle, hein, une sorte d'éthique de se dire « Moi, je suis clean, j'ai envie de faire des poignées de main, j'ai envie que tout soit à plat. Après, il y a une partie, j'ai envie de protéger mes arrières. parce que ce que j'ai envie de faire comme projet, c'est complètement indépendant. J'ai pas envie qu'un industriel vienne me stopper ou me mettre des bâtons dans les roues. Il y a après une indépendance par rapport à l'édition, c'est-à-dire que si je dis à mes éditeurs, ben non, on garde cette licence libre et Creative Commons, ça me permet d'échapper à tout ce qui est l'exclusivité et de me faire enfermer aussi sous un producteur ou sous une maison d'édition, et donc de garder beaucoup de liberté. Je crois que derrière tout ça, le fait de vouloir se protéger, vouloir aussi que les autres qui réutilisent soient protégés aussi, c'est un vœu de liberté, quoi, de toute façon.
Est-ce que tu conseilles parfois d'autres jeunes artistes, on va dire, dans leur carrière, de faire pareil, ou comment tu te positionnes là-dessus?
J'aime pas les relous, tu sais, qui disent passe au logiciel libre, qui font de, tu sais, ce qu'on appelle l'advocacy, là, de l'évangélisation, en gros, et dire il faut tous passer comme moi, utiliser mes ressources, vous verrez, c'est génial ou quelque chose. J'estime que si c'est génial et si ça marche bien, donc pour moi, eh ben simplement, mon travail sera un exemple. Donc, je préfère une sorte de chose passive, voir si ça marche pour moi. Si ça marche pour moi, de toute façon, les autres le verront bien et copieront bien la truc, quoi. Hein. Je sais que les artistes, quand ils voient quelque chose qui marche bien à côté, ils réutilisent.
Ouais, mimétisme.
Le mimétisme. Et je pense que ce mimétisme, c'est la meilleure façon pour moi de faire de l'advocacy. Donc, je travaille uniquement sur essayer de ma propre excellence, quoi, dans le milieu, quoi.
Ouais, ça marche bien pour moi, donc faites ce que vous voulez, mais
ça voilà, bon. Ça marche bien pour non, moi. Regardez, maintenant, j'ai commencé à avoir 5 ou 6 éditeurs dans différents pays. Il y a 55 langues. Voilà, il y a toute une vie foisonnante. Ça aurait pu se planter aussi, mais de montrer que ça répond aussi à un besoin de personnes qui se sont fait griller ou de contributeurs qui ont contribué à des univers et puis tout d'un coup, l'auteur a dit ben non, ça vous appartient plus. Vous pouvez plus, ou voilà, votre traduction jamais à la poubelle, parce que maintenant j'ai un nouvel éditeur et j'ai tout revendu. On voit qu'il y a des contributeurs qui préfèrent se tourner vers la culture libre, parce que bah, là au moins, s'ils apportent leur petite pierre à l'édifice, ils sont assurés que bah, ça reste exploitable.
Et comment ça marche? Comment ça a fonctionné, par exemple, pour que Glénat, qui donc édite Pepper & Carrot en France, viennent vers toi? Parce qu'en fait, techniquement, moi, j'ai le droit, du coup, d'éditer n'importe quel de tes BD.
Tu as le droit, commercialement, dans tout pays.
Ouais, commercialement, donc je peux imprimer. Enfin, si j'ai une imprimerie, je pourrais le faire.
Ouais, même avec l'imprimante maison et une agrafeuse, tu sais, tu te lances.
Et les vends dans la rue,
système postal, voilà, tout ça, il n'y a pas de souci. Alors, pour Glénat, ça s'est passé de façon très simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai reçu un email de quelqu'un qui me disait « Ah, oh, je travaille à Glénat et est-ce que tu peux me passer un PDF de Pepper et Carrot parce qu'on va avoir une réunion et j'aimerais bien leur soumettre l'idée. » Bon, ce jour-là, bah, comme d'habitude, j'étais un peu charrette. J'essaye de prendre 2-3 planches sur LibreOffice, je les colle, j'envoie le PDF. Et là, bah, je reçois un autre email de quelqu'un d'autre à Glénat qui me dit bah, « voilà, ton dossier a retenu notre attention, on aimerait éditer Pepper et Carrot. » Alors moi je me dis « mais ils sont au courant que c'est libre, que c'est machin ?» Parce que quand même, 2014 quand je fais ça, 2015-2014 quand ils me contactent, l'idée est un peu… voilà, moi sur mon site c'est marqué « pour changer l'industrie de la BD », je suis un peu bourrinos là-dessus. Et en fait, non, ils n'avaient pas lu ça, ils n'avaient vu que le PDF.
D'accord.
Et ils ont été après sur le site, ils ont été regardés, mais ça ne les a pas plus marqués que ça. Ils croyaient que c'était un webcomic comme beaucoup d'autres, et ils voulaient éditer le webcomic. Donc en fait, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est m'envoyer un contrat d'édition totalement normal. Ils ont des équipes qui regardent ce qu'ils faisaient à l'époque en webcomic. Je ne sais pas si maintenant, 5 ans après, c'est toujours pareil, ou 6 ans après, 7 ans après même. Et donc, à l'époque, c'était pour eux, ça avait l'air commun, d'après mon expérience, d'aller regarder ce qui fonctionne sur le net, ce qui se repartage, et puis de vouloir faire leur tri éditorial dessus. Ce qui, pour moi, a été un choc, parce que bah, avant ça, j'ai envoyé plein de dossiers d'édition. C'est-à-dire que Pepper et Carotte, c'est un peu mon projet de la dernière chance pour moi aussi, parce que avant, j'ai essayé à tous les éditeurs, je faisais mon petit dossier, tout le storyboard, c'est beaucoup de travail, quatre planches couleurs. J'essayais d'emmener l'éditeur dans mon projet pour qu'il puisse m'éditer. Et j'envoyais ça à quatre ou cinq éditeurs, Dargaud, Dupuis et tout, et j'attendais sagement ma lettre de refus. Donc ça, ça a été presque de 2008 à 2014. Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, ce que je recherche, c'est faire de la BD, finalement, c'est pas vraiment d'en vivre. Parce que à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces systèmes. Il y avait le bouton PayPal, mais il n'y avait pas encore tous ces systèmes de patronage. Ça aussi, c'est récent. Et ça, il faut le voir.
Ouais.
Et quand j'ai vu que sur YouTube, à cause de l'algorithme et des revenus qui commençaient à baisser, ils avaient trouvé un moyen de faire un site Jack Conté avec Patreon, je me suis dit, mais ça, c'est une bonne solution. Un site où on peut demander, comme ça, le mécénat. Cette solution-là, elle a été virale, parce que maintenant, il y a Tipeee, il y en a des pelles, quoi, de sites comme ça. Donc, Pepper et Carotte, quand je me suis lancé, c'était pour dire, allez, le but, mon rêve, à la base de gamin, c'est de faire de la BD. Maintenant, je sais qu'il y a la machine à photocopier géante, qui est Internet. Je connais les licences parce que j'avais bossé dans des films qui étaient déjà sous licence libre. J'ai vu qu'il n'y a pas de gros soucis. Hein. J'avais fait une personnage et je me suis dit, bon, quand je vais la mettre sous licence libre, il va y avoir du porno, il va y avoir des trucs avec elle. Et j'avais peur de toutes ces dérivations. Et en fait, j'ai vu que non, il n'y avait que du fan art, de la communauté qui refaisait des histoires avec. C'était génial. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire ma BD sous licence libre comme ça. Et puis, ça sera en parallèle de mon travail freelance. Ce sera pour m'éclater. Sauf que j'ai eu la chance que ça devienne viral dès les premiers épisodes. Donc, grosse communauté qui se met, et puis j'essaye de regarder le système Patreon, qui venait un peu d'exister, et je le prends, et voilà, la BD commence à partir là-dessus, et voilà, on en est maintenant au 34e épisode. Okay.
Ouais. Et du coup, c'est pour ton exercice totalement indépendant de création. Est-ce que Glénat, du coup, ils t'ont quand même impliqué dans le processus d'édition?
Oui.
Par respect, ou est-ce que c'était par respect, ou est-ce que c'était parce qu'ils avaient pas l'habitude de genre de Creative Commons, tu vois? Dans le sens où, est-ce que si aujourd'hui ils trouvaient un webcomic, comme le tien, et qui se disaient, attends, on va l'éditer, mais qui voyaient que c'est Creative Commons, est-ce qu'ils enverraient juste un mail pour notifier la personne, ou est-ce qu'ils feraient comme, peut-être, tu vas me dire, c'est pour toi, et t'impliquer un peu dans le truc?
À leur crédit, ils ont fait beaucoup d'efforts, parce que, il faut savoir qu'ils ont des process. Envoyer un contrat, générer un contrat, faire signer, tout ça pour eux, c'est une grosse boîte. Et je crois qu'il y a 60 personnes qui travaillent là-dedans. Et chacun a sa liste de to-do list à faire quand ils mettent un nouveau titre, et puis ça passe, quoi. Moi, j'avais effectivement je leur demandais une nouvelle licence, je leur demandais pas de contrat. Directement, ça, il a fallu l'étudier avec leur juriste. Leurs juristes, ils sont occupés aussi à d'autres choses. Ils voient ça, ils se disent, mais pourquoi? En gros, qu'est-ce qui va nous embêter avec ça? On a un contrat qui est déjà tout fait, voilà. Mais mon directeur artistique chez Glénat, celui qui a poussé un peu et qui continue de pousser Pepper et Carotte, déjà aime bien l'univers, pour lui personnellement. Et ensuite, il était intéressé et curieux d'essayer quelque chose de nouveau, parce que dans les discussions autour des syndicats bande dessinée de l'époque, il y a beaucoup de problèmes de piratage, d'artistes pas rémunérés, tous ces problèmes-là sont toujours bouillants maintenant, mais ça faisait déjà 10 ans que c'était bien installé. Et de se dire, allez, on va essayer quelque chose, cet artiste-là propose, directement l'audience, le mécénat, l'éditeur est vu comme quelqu'un qui fait la figurine du film, un produit dérivé, c'est-à-dire le comic principal est sur Internet, et donc nous on fait que des produits dérivés. Enfin, voilà, ça l'intéressait de dire, à Glénat, on a envie d'être, en gros, je sais pas, un peu innovant, d'essayer ça, parce que c'est bon aussi pour l'image. Ils voyaient que ben, la communauté était autour et puis que ça faisait, ça dépoussiérait l'image d'un éditeur aussi. De...
Ah oui, totalement. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est vrai que là maintenant, du coup, si je dois penser à Glénat, je me dis ah c'est quelqu'un qui peut aider à faire rayonner des gens ben, comme toi qui sont pour le Creative Commons.
Ouais. Voilà. Donc il m'a écouté. On a parlé pendant 2 ou 3 heures au téléphone. Complètement pour savoir un peu ben, c'était quoi le projet, c'était quoi la philosophie du truc. Et il m'a dit, ben voilà, aide-nous à faire que l'album soit comme celui que tu voudrais. Donc, j'ai eu le droit de regard sur les PDF, sur les planches imprimées.
C'est cool, ça.
Oui, ah ouais. Sur la typo, à chaque point de la truc. Donc, l'album Glénat, c'est pour ça que je le republicite, il n'y a aucun problème. Et surtout aussi parce que ce n'est pas que de dire, allez, on va te faire de la publicité dans les librairies et compagnie. C'est parce que aussi, à chaque fois que je sors un épisode, Glénat sont eux-mêmes mécènes et reversent $950 par épisode. Donc, c'est quand même, c'est pas une forme de droit d'auteur, ils peuvent se retirer à tout moment, c'est un contrat de confiance qu'on a. Ouais. Mais ils profitent à ma production, en fait, à ma vie, voilà, à mon confort.
Ouais, ouais.
C'est pour ça.
Mais c'est intéressant de dire, parce qu'il faut le souligner, parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude, je pense. Le truc de. Genre, tu n'as pas de contrat avec Glénat. Glénat ne te donne pas d'argent, même s'il profite de l'argent que ça rapporte, quoi. Et je pense que c'est important. Et donc, encore une fois, ouais, tu bases le truc que sur la contribution des gens.
Oui. Mais après, voilà. J'ai aussi un pouvoir parce que ben, toute l'audience de Glénat, je sais qu'ils regardent les nouveaux épisodes sur le site. Et que si jamais Glénat me dit, ben, nous, on part de la contribution ou on ne veut pas t'éditer le numéro 4, ben, je dirais aux personnes, ben, n'achetez plus cette édition. Et puis, ouais. Comme j'ai tous les droits et tout, bah, je vais leur dire, achetez cette édition-là qui, eux, participe encore. Quoi, voilà. Donc, il y a un côté organique, mais pour l'instant, ce n'est même pas entrevu. Il y a toutes les discussions sur le tome 4 qui sont en cours, tout va bien. Donc,
D'accord. Le seul vrai intérêt pour moi, effectivement, d'avoir, tu sais, cette espèce de monde d'éditeur slash producteur, parce qu'encore une fois, moi, je reviens toujours à un truc aussi de mon côté du...
Bien sûr.
De l'exercice de l'art, qui est, en fait, le fait de pouvoir justement avoir une direction artistique et peut-être, voilà, des conseils, des choses comme ça. Est-ce que, toi, t'as retiré certaines choses de ce qu'on a pu te dire bah, le mec de Glénat, ton pote éditeur, hein, est-ce que tu as pu en retirer des choses et te dire, ah, mais c'est vrai que, bah, tiens, pour les planches d'après, bah, c'est pas bête, je vais changer ma manière de faire certaines choses parce que je la trouve meilleure, tu vois. Est-ce qu'en gros, des conseils en termes artistiques ont pu te bénéficier ou pas spécialement
J'ai été assez agressif dès le début sur ce sujet-là avec eux parce que je venais d'une carrière aussi déjà d'illustrateur. J'avais fait pas mal de couvertures de livres, pas mal de jeux de société et les éditeurs qui me disaient un peu « Ah ben non, il faudrait qu'il y ait une petite blonde sur la couverture parce que ça prend plus et tout », ça avait été un peu ma vie avant. Donc, dès que j'ai vu un éditeur arriver sur Pepper et Carotte, c'était les premiers qui... Et en plus, Glénat, quoi, le nom, quoi, la taille du nom. Je me suis dit bah, « Je vais directement les briefer, quoi. Et moi, je veux toute la liberté et machin. » Mais après... ils ne m'ont jamais demandé quoi que ce soit par rapport au marketingment, par rapport à conseils d'écriture de personnages. C'est moi-même qui, en voyant l'album, par exemple, a commencé à partir du tome 2, à la fin du tome 2, à me dire « il me faut une logique d'arrêter un arc à la fin du tome ». Parce que les lecteurs, ben, finir comme ça sur un épisode et puis d'attendre 6 mois ou 1 an ou 2 ans, même à des fois, que je fasse un autre tome, c'est pas bien, quoi, pour ceux qui sont rien que papier, parce qu'il y en a qui viennent pas sur le... Donc, je me suis dit, allez, il va falloir que je change mon écriture et que je me prête un peu à la logique album. Donc, maintenant, je sais qu'un album, ça fait tant d'épisodes et qu'il faut que je m'arrête à ce moment-là et que l'histoire, il faut qu'il y ait un bon tempo à ce moment-là pour arrêter. Mmh. Alors que cette coupure entre tomes, au début, ça ne m'intéressait pas du tout. Le webcomic, c'était épisode après épisode, tous se suivent. Et pour moi, quand ils ont commencé à couper là-dedans pour dire « Ah, nous, on s'arrête à 70 pages pour un premier tome », j'ai dit bah, « Si vous auriez dit 60 ou 80, ça aurait été pareil pour moi. » Alors que maintenant, je leur demande. Je leur dis « Ah ouais, on s'arrêterait à cet épisode-là parce que ça va influencer mon écriture, parce que je sais qu'il y a une audience et j'ai envie de les satisfaire aussi sur ce... »
Ça veut dire que c'est plutôt la forme elle-même de la publication qui t'a donné cette idée à toi, en fait,
oui,
c'est ça.
Oui.
Mais il n'y a jamais eu de discussion, on t'a jamais dit... Parce que, en fait, je dis ça dans le sens où, pour moi, ça pourrait être parfois le seul bénéfice, parce qu'on rigolait tout à l'heure en se disant que Quincy Jones pourrait savoir si on enregistre en 48 kHz ou pas, de ces fameuses personnes qui... En fait, qui sont pas les artistes, mais qui peuvent quand même beaucoup contribuer en fait au final au produit final. Ouais. Même si toi, en fait, du coup, comme tu fais tout chez toi, et ensuite tu le donnes. Mais je me demandais si parfois il pouvait y avoir un petit rétro, un petit rétro contrôle, mais un petit conseil qui pouvait revenir. Après, voilà, je suis conscient que ce niveau de production et d'édition où, en gros, on peut vraiment avoir un impact bénéfique sur la création générale, je pense que c'est minime.
Oui.
Par rapport à toute l'édition. C'est-à-dire qu'en gros, on va beaucoup plus te demander, encore une fois, de mettre des boobs que on va te dire... Ah, ça peut être intéressant que, par contre, Pepper et Carotte suivent un arc que tu finirais. Tu vois, la plupart des artistes, quel que soit le domaine, ben, à moins de trouver la bonne personne, mais du coup, c'est une personne, en fait. nous, on est chez Atlantic Records, tu vois, comme à l'époque où tu pouvais avoir un grand ponte d'une grosse boîte d'édition ou de production, et eux, ils vont faire ressortir le meilleur de toi, tu vois. C'est juste, en gros, des gens qui vont dire, ben ouais, on va prendre un gros pourcentage de ce que tu pourrais gagner parce qu'on va envoyer des mails, tu vois. Et...
il y a ce côté-là, hein. Mais moi, ce que je vois, en fait, de ces directeurs artistiques, c'était un peu les influenceurs avant l'heure. C'est-à-dire que quand les personnes allaient chez leur libraire pour aller choisir une BD qui ne savait pas « Ah, oh, j'ai lu celle-là, j'adore celle-là », eh bien, on pouvait se dire « Allez, oui, mais regarde, dans cette collection-là, chez tel éditeur,
ouais,
tu peux taper parce que là, il y a quelqu'un qui a les mêmes goûts et qui a déjà sélectionné les choses et qui D'accord. sait que tu vas aimer. » Voilà, donc...
Ouais, une sorte de curateur du bon art. Quoi,
ouais, en fait. Ouais. Enfin, c'est ça, un critique leur... qui faisait le filtre. Et ça marchait bien, hein, ça marchait bien. Mais maintenant, j'ai pas l'impression que les personnes vont en librairie après avoir demandé le conseil au libraire, par exemple. Genre, j'ai envie d'acheter ça et ça, qu'est-ce que tu me conseillerais dans la même veine ou quelque chose. Je me trompe peut-être, parce que moi-même, je vais de moins en moins en librairie. Je vois beaucoup de bande dessinée numérique. Donc, je pense que leur rôle là-dessus, de conseiller un influenceur, que ce soit YouTube ou Instagram, qui conseille dans sa revue des livres, fera plus de ventes. Parce que son audience, qui a confiance en ses influenceurs, se dira « Ah, oh, ben, s'il a aimé ça et que moi, j'aime déjà bien les deux livres qu'il m'a conseillés, je vais aller voir oui. ça. » Donc, le nerf de guerre par rapport à ces directeurs de collection, pour moi, se situe maintenant là, sur ces personnes qui ont voix au chapitre, tout ça, qui peuvent parler, quoi. C'est délicat pour leur position, en effet. C'est un monde qui change. Ouais. Pepper et Carotte, c'est sûr que... Oui, il y a aussi un autre effet. C'est que, par exemple, Pepper et Carotte, dans l'audience, la France représente que 4%.
Ouais.
Pour moi, de prendre un conseil marketing pour librairie française, ça n'a ouais. pas la même valeur que de regarder tout ce que ma communauté dit. Faut savoir que vraiment, les commentaires venant de certains pays de l'Est ou certains pays de l'Ouest sont complètement différents, réagissent complètement différemment aux épisodes, et que je vais pas non plus les draguer plus que ça. C'est tellement, de toute façon, un chaos et un fouillis total que j'essaye oui. de simplement me faire plaisir à moi et de continuer là-dedans.
Ouais. Je pense que ça doit être assez apaisant, justement, d'avoir des conseils. Moi, en tout cas, je le sais, des conseils absolument contradictoires. C'est-à-dire, moi, quand j'ai quelqu'un qui revient vers moi pour me dire « Ah, mais cette partie du spectacle, il faudrait qu'elle soit plus quelque chose » et quelqu'un d'autre qui me dit « Il faudrait qu'elle soit moins quelque chose », je dis « Ah, bah, c'est parfait, en fait. » Tu vois, je me dis « Je continue à faire juste ce que tu veux faire, toi. » Et au final, tu trouveras toujours des gens qui ont différentes sensibilités, quoi.
Et puis, vouloir faire plaisir à qu'un seul point de vue ou qu'une seule personnalité, c'est un piège, quoi. C'est...
Ouais.
Moi, j'ai sur donc Pepper et Carotte, c'est ouvert, même la production. C'est-à-dire que j'ai les personnes qui viennent commenter les premiers storyboards du prochain épisode. Et des fois, ça peut faire des conversations, mais des choses immenses, quoi. Parce que, ben voilà. Et ce sont des personnes qui ont aidé sur des épisodes passés. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de vivre au moment où ils me commentent l'épisode du moment. Ça, ça peut influencer aussi. Sur des épisodes passés, ils ont pu être extrêmement utiles, extrêmement, pas utiles, parce que là, ça fait vraiment, je pioche dedans, mais bénéfiques. C'est-à-dire qu'à des fois, je regarde, je dis, ah ouais, c'est pas bête. Effectivement, là, le personnage, on comprend pas ce qu'elle dit. Voilà, ça m'aide à rebondir dans, dans ma propre chimie. Et puis, à des moments, il y en a qui vont partir presque en croisade contre une idée. Et là, on se dit, oh là
ouais, qu'est-ce qui se passe dans ta vie?
Est-ce que ça va être tout le monde qui va réagir comme ça quand je vais faire l'épisode? Est-ce qu'il faut que je prenne l'individualité ou pas? C'est chiant, quoi. Donc, à un moment donné, ouais, il faut foncer tête baissée. Ça m'arrive de me prendre des cartons, hein, de faire des mauvais épisodes. Hein, bien sûr.
Ouais. C'était peut-être, on va dire, un des pionniers. Là, tu vois que ça devient beaucoup plus répandu de faire à peu près la même chose que toi. C'est-à-dire non. Non.
Là-dessus, j'ai cru que le modèle que j'allais mettre sur Internet allait pouvoir offrir une solution à quelque chose.
Ouais.
Mais il y a eu un modèle qui est apparu un peu de temps après, qui est encore plus à l'avantage des artistes. Et c'est le modèle... Tu mets le webcomic en free sur le net, mais c'est copyrighté. Mais comme les gens font des fan art parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, et puis parce que voilà, tu bénéficies de tout ce qui est dérivation et fan art quand même, tu prends des éditeurs, parce que les éditeurs, de toute façon, vont regarder ce truc-là, des webcomics free. Tu fais des contrats d'édition classiques avec des éditeurs, en plus de demander du patronage et du mécénat par les personnes, parce que ces personnes ont l'impression qu'elles aident à financer la vie de l'artiste qu'elles aiment. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est en fait qu'elles financent sa propriété. C'est comme si tu aidais quelqu'un à financer sa propre baraque parce que tu es content qu'il vive dans un château, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Et ce modèle-là, ben, il est beaucoup plus en fait à l'avantage de l'artiste parce que, ben, en gros, tu as le beurre et l'argent du beurre, là. Et toute la propriété, tu as une communauté qui par Patreon t'aide ou par des systèmes de mécénat t'aide à former ta propriété et à tout moment tu peux la retirer du net, tu peux la vendre à quelqu'un, tu peux, voilà. Et je crois que ces artistes-là, ce qu'ils n'aiment pas dans mon modèle, c'est que dans mon modèle, il y a un effet que les artistes, ce que j'appelle le complexe Walt Disney, c'est-à-dire ils aimeraient que leur univers explose soudain coup.
Oui, soit franchisé.
Voilà,
je
pourrais l'appeler le complexe Harry Potter ou quelque chose, quoi. C'est-à-dire que le gros succès, et avec Pepper et Carotte, si j'ai un gros succès comme ça, par exemple que Glénat vend tout d'un coup 100 000 albums, ce qui est beaucoup en bande dessinée, ce qui est énorme, moi, ils me reversent toujours le même mécénat. Alors, j'ose espérer qu'ils me disent « Ah là, on a fait quand même un super chiffre, David, on va te donner un peu plus de liquidité. »
Oui. Mais t'es pas sûr, en tout cas.
Ce n'est pas contractualisé. Je peux pas leur dire, avec un avocat, « Donnez-moi, parce que là, je vois que ça explose. » Et je crois que tout le monde essaye de faire le jackpot comme ça.
Oui, bien sûr. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu vois, il y a un côté de responsabilisation presque de civisme. Moi je suis, encore une fois on prend l'exemple, voilà, je suis un éditeur, je t'édite en Argentine, tu vois, et effectivement on en vend 100 000,
ouais.
mais que je ne suis sur ton Patreon que toujours de 100 $, tu vois ce que je veux dire,
ouais.
Et il y a un côté, ben en fait tu peux souligner le fait que cette personne ne te rémunère pas quand même par rapport à ce que ça lui a rapporté. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Et il y a un côté de responsabilisation vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est clairement, on vit dans un monde où effectivement tout le monde a besoin qu'il y ait des choses écrites sur contrat. Mais au final, ça, c'est toujours que des choses qui sont au désavantage du labeur de la personne, parce que justement à aucun moment on va dire bah, on a écrit sur contrat que c'était tant d'argent, Et du coup, si tu fais des millions, bah, ce sera quand même que tant d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un côté, bah, non, mais, ouais, mais, encore une fois, c'est pas juste. Et c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de ressortir ça, parce que la base même de toute justice dans le monde et dans tous les gouvernements, c'est le côté de qu'est-ce qui est logique entre deux personnes, tu vois.
Oui.
Mais, et on en oublie la chose importante parce que on a joué le jeu de qu'est-ce qu'on a écrit.
Ouais.
Sur un papier. Et pas juste, ben en fait, mec, t'as travaillé pour moi, tu m'as rapporté ça, ben merci, et je te donne le truc à la hauteur de ce que ça m'a rapporté. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est assez représentatif, mais, et du coup, un peu assez triste de se dire, ah ouais, en fait, déjà, tout le monde a peur de faire comme toi. Tu vois, en gros, c'est comme un truc en bourse, quoi. C'est toujours se dire, ben, on va garder parce qu'à un moment, ça va exploser. Et comme ça peut exploser, je vais garder le maximum de droits et je vais jouer le jeu du système le plus longtemps possible, en fait.
Oui, tu vois. Oui, parce que ben, ça t'assure que s'il y a effet jackpot, tu auras au moins la proportionnelle.
C'est ça, mais du coup, on en enlève le côté très... sincère de la vision dans le monde dans lequel on voudrait vivre, qui est un peu ce que toi tu veux faire.
Oui, c'est une
utopie. Moi, c'est marrant parce que bon, j'ai commencé mon Patreon il n'y a pas très longtemps et du coup, j'ai quelques Patreons et il y a un côté où moi, ça me permet de pas démarcher quoi que ce soit comme pub, etc. et que j'ai pas envie de faire de la pub. Après, je crois que pour la vanne, j'aimerais, si un jour ça arrive, genre être. Faire de la pub pour Monsanto ou des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, quitte à faire de la pub, je préfère faire de la pub pour le truc où personne veut faire de la pub. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais parce que tu sais que ton audience saura dès le début que, oui, voilà, elle te prendra à contre-pied.
J'avoue, ouais. J'avoue, c'est vrai. Mais oui. Mais
quelque part, faire du Monsanto de façon caricaturale et complètement happy... est beaucoup plus facile que de faire un NordVPN complètement sincère, tu vois.
Mais oui, c'est ça. Même si, en vrai, tu vois, je peux utiliser NordVPN, mais il y a un côté où je fais partie, du coup, du système que, en fait, la réalité que j'aime pas forcément.
Oui.
Et d'ailleurs, bon, ça me pose d'autres problèmes. Je crois que je sortirai l'épisode avant le tien, mais... En gros, tu sais, je devais passer à la télé pour un truc, pour une émission sur M6.
Bon courage.
Non, mais je devais le faire. Et finalement, au dernier moment, avant de tourner, ils ont fait « Ah non, mais Areski Sugar, il est trop anti-gouvernement. Oh. » Donc, si tu veux, il y a...
Tu vas choquer genre, la ménagère.
Ouais, non, ce qui est totalement. Alors qu'en fait, c'était un truc scripté, donc il y a aucun. Enfin, je veux dire, j'allais jamais rien dire de ce que je voulais de toute manière. Mais du coup, ça ne fait que rajouter du cynisme à tout ce système de prod et de choses comme ça où tu te dis, ouais, mais en fait, cette émission sur M6, je crois qu'au final, bon, après, c'est vrai que la télé est quand même très, très regardée, mais elle va quand même faire, quoi, autant de vues que peut-être deux vidéos YouTube qui marchent très bien. Tu vois ce que je veux dire?
Il y a vraiment une asymétrie là-dessus. Hein. Moi, c'est Glénat, tu me demandais par rapport à leur voix. Bon, quand ils disent il y a 15 000 albums de vendus, bah, je suis désolé, c'est le nombre de visites par jour sur le site de Pepper.
Par jour, ben ouais.
Donc, ouais. J'aime bien, moi, les lecteurs de l'album. Je les respecte parce qu'ils achètent, ils s'investissent. Ils ont la pièce et en plus, ils veulent l'entreposer chez eux. J'imagine qu'une fois qu'ils, ouais, la lisent, ils la mettent pas au barbecue, quoi. Donc, il y a vraiment...
Non, elles sont derrière moi, là.
Il y a vraiment, comme ça, un lien affectif. C'est pas 15 000 non plus personnes qui cliquent sur le lien et puis je ne sais pas ce qu'ils en font derrière. Ils regardent la première page et ils font « bon, allez, je me barre » ou ça. Donc, les mettre au même niveau, ça serait aussi faux. Mais par rapport, après, au nombre... À l'année, ça fait 3,6 millions Pepper et Carotte de vues. Donc voilà, on peut se dire que oui, il y a entre les anciens médias et la télévision, bah, en fait partie, ils ont toujours une audience délirante, hein. Ça c'est clair et net. Mais ces anciens médias, surtout dans l'impression, par rapport à Internet, c'est autre chose, quoi. Mmh. Et tu disais YouTube, mais oui, le YouTube et la télé, ça c'est quelque chose de, sur ces 5 dernières années qui a changé.
Ouais, et pourtant, tu vois, Bah justement, médiatiquement, mais médiatiquement, que ce soit la télé ou même les journaux, etc., enfin, dans le
zeitgeist,
on va te dire, bah non, c'est la télé qui est suprême. C'est les journaux, peut-être, qui sont suprêmes, etc. Alors qu'en fait, si tu regardes la statistique, tu dis, ah ben, ouais, mais en fait, il y a plus de gens qui sont sur bfmtv.com que qui regardent le journal de TF1, par exemple, tu vois. Ouais. Bon, après, là je dis n'importe mais... quoi, parce que c'est peut-être pas ça, mais
j'aime bien parce que, ça rejoint exactement ce que j'avais, moi, comme perception de 2000 à 2010, d'être toujours dans cette pression, en fait, d'une construction sociale, en fait.
Ouais, c'est ça.
De comment c'est fait et comment aussi ce système essaye de se survivre et de se maintenir avec cette validation. Et à la fois, quand on le regarde et qu'on déconstruit un peu la réalité et qu'on essaye de regarder de façon objective, on se dit, ah non, mais en fait, il n'est plus là, le fer de lance, quoi. Il n'est plus... Ils sont déjà paumés, quoi. Et d'ailleurs, entre 2000 et 2010, il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont lancés dans la bande dessinée sur Internet et qui sont maintenant des monuments et des légendes.
Oui.
Qui ont perçu la chose beaucoup plus tôt que tout le monde. Moi, je ne suis pas non plus pionnier dans ce sens-là. Moi, ça va être plutôt par rapport à l'utilisation de logiciels libres. Là-dessus.
Oui, de pouvoir... Oui, parce que toi, il y a un côté, encore une fois, dans ta philosophie de travail, tu streamlines la liberté, quoi, un peu. C'est-à-dire tu utilises des logiciels libres pour faire des choses libres.
Et tout ça vient d'un gros caca nerveux, en gros, à la base. Hein. Un jour, j'étais freelance, j'avais ma machine sous Windows XP, mais tous mes logiciels Adobe et tout, 3 000 euros de logiciels derrière moi. Ouais. J'étais vachement content, ma petite carrière fonctionnait bien, les petits magazines, tout, j'avais mes awards. Et là, je passe dans un supermarché. Et content de mon chiffre d'affaires, je vois une machine nouvelle, tu sais, là, au tout début, là, dans les supermarchés, t'as des montagnes de machines qui sont...
Ouais, ouais, ouais.
Et puis des bonnes performances et tout. Et je me dis, bah tiens, mon PC, il commence un peu fatigué. Oh là, j'ai jamais fait ça, je me fais le coup de tête, là. Tu sais, je prends la machine, je la mets dans le caddie, quoi. Yes!
Ah là là.
c'est l'offre du moment, voilà.
Tu t'es fait plaisir, quoi.
Je me suis fait plaisir. J'arrive à la maison, je lance le machin, et là, en fait, la machine avait le nouveau Windows Vista.
Ah oui.
Et ça venait d'apparaître à l'époque, et je dis mince, mais bon, bah, alors, il doit y avoir des pilotes pour Windows XP. Moi, j'avais ma licence Windows XP Pro achetée à côté, hein, et j'essaye de l'installer, et là, la carte mère n'a pas de pilote, tout part à volo, j'arrive pas à installer mes logiciels dessus. Je vois que Photoshop, si on veut l'installer sur Vista, il faut passer de CS2 à CS3, c'est $399 ou je sais plus quoi, à avoir à racheter rien que pour la compatibilité, c'est même pas une nouvelle fonctionnalité. Et là, je passe au service après-vente du supermarché qui me dit « Ah non, là, pour reprendre la machine, c'était une offre limitée, machin, enfin, tout un truc. On peut faire des bons d'achat dans le supermarché. » Enfin, ça m'a fait péter un plomb et je me suis dit « Mais là, ils sont tous en train d'essayer de me saigner, quoi. » D'un côté, la machine, de l'autre côté, le système, de l'autre côté, les logiciels. Et j'étais un peu curieux à l'époque, j'avais un ordinateur portable un peu vieux que j'avais mis sous Linux, et je regardais les logiciels qu'il y avait, et je me suis dit, bah, il est peut-être temps là, que j'essaye de faire tourner tout ça et de faire mon boulot là-dessus. Et j'ai trouvé, ouais, c'était bancal, hein, il fallait passer d'un logiciel à un autre, il y avait des fichiers qu'il fallait déconstruire, changer des choses pour reconstruire le fichier. Rien que pour installer à la tablette graphique, ça m'a demandé des soirées et des soirées, mais j'avais l'impression que là, il n'y aurait plus personne qui aurait de compte à me demander. Voilà, je pouvais faire mon truc, j'investissais voilà, dans les logiciels libres, mon temps, et que, bon, au futur, tout ce que je mettais, les nouvelles icônes que j'aidais à essayer de mettre, les nouveaux retours, ben, j'allais en bénéficier. Et ça a marché, plus ou moins, voilà.
Ouais. Et en faire bénéficier beaucoup d'autres, au final.
Oui, parce que ben, c'est un peu le principe. Et je me suis dit, au début, s'il y a simplement un réseau de professionnels qui se met sur ces logiciels-là, qui les adaptent à leurs utilisations, ben on va vite fait avoir quelque chose qui va dépasser les autres trucs. Et puis après, on paye bien sûr les développeurs qui font les tâches ingrates, parce que sur les logiciels, il n'y a pas que des choses sympas à coder.
Oui, oui.
On se met, ben voilà, un système de patronage ou de trucs comme ça.
Ouais.
Et puis...
C'est-à-dire tout le monde... Mais oui, en fait, c'est ça, c'est l'économie de don, quoi. Chacun donne.
Oui. C'est un peu l'économie.
Qui était d'ailleurs, techniquement, la première économie humaine. Tu sais, très souvent, on parle de troc. En fait, le troc, ça... Ça n'a jamais vraiment existé, ça a toujours été du don, c'est-à-dire chaque tribu donner à une autre, donc sans attendre quoi que ce soit en retour, mais à un certain moment, l'autre, elle allait avoir besoin de toi pour faire, tu vois,
là, j'étais pas au courant, d'autre,
etc.
Donc, ouais. Mais c'est vrai que, bah, en fait, il n'y a que ce système qui fonctionne par rapport à un espace totalement de liberté, par rapport à une BD avec une licence libre ou avec des logiciels. Et le fait de baigner, moi, là-dedans, de façon un peu tôt, c'est normal que ça m'a influencé pour Pepper et Carotte, après, quand j'ai voulu faire la bande dessinée. Mais c'est aussi un système qui s'autorégule. Par exemple, sur Patreon, on voit, il y a l'argent qui s'affiche. Et des personnes, j'imagine des personnes qui regardent et qui disent « Ah bah non, lui, il gagne déjà assez bien. Je vais plutôt donner à un projet à côté. » Hmm. Basé sur quoi, on ne sait pas, parce que peut-être qu'un Brésilien qui regarde cette page-là, ça va lui paraître énorme, et qu'un Américain du Nord qui regarde ça va se dire « Oh bah le pauvre, quoi. » Enfin bon, je sais pas.
Oui, oui. Non, mais oui, mais t'as raison, mais c'est pareil, tout forcément devrait normalement se réguler de manière cohérente, plus il y a de gens, en fait, dedans, forcément, puisque voilà, tu vas pas avoir que des gens du Brésil qui,
peut-être,
qui vont regarder.
Peut-être, oui. Je m'excuse pour toutes les personnes du Brésil. C'était simplement par rapport à ça.
Non, par rapport au PIB et par rapport à ce qu'on gagne par mois, à chaque habitant, etc. Ben, bien sûr.
Voilà.
Mais si. Et alors, mais tout à l'heure, tu parlais des gens qui avaient vu un peu le truc arriver et qui s'étaient mis tôt entre 2000 et 2010 sur l'art numérique, etc. Et là, justement, on avait un peu parlé de ça avant, mais c'était les fameux NFT, les Non-Fungible Tokens, qui sont en gros une manière d'utiliser de la technologie qui actuellement est utilisée pour les crypto-monnaies pour, en fait, retracer n'importe quel fichier numérique. Je pense que simplement, c'est ça. Ça te paraît...
Ça me paraît une bonne définition, mais bon, pour les personnes qui voudraient encore... Un autre aspect, c'est l'intérêt de la crypto-monnaie, c'est d'avoir toute une base de registres, une base de données, comme un tableur, en fait, mais partagé sur plusieurs machines sans un intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la Banque de France où il ne va pas y avoir une banque, un tel, qui va gérer ce registre. Donc, c'est géré sur plusieurs machines et partagé sur plusieurs machines. Ça rend le côté... inviolable des opérations, c'est-à-dire qu'une opération qui essaye d'être modifiée, par exemple, tu as envie qu'un paiement, il y a de ça un an, de le faire disparaître parce que c'est un peu compromettant pour toi, si tu le fais dans ta blockchain locale, dans ta chaîne de blocs locale, eh bien, ta chaîne de blocs va tout de suite ne plus être reconnue par les autres parce qu'elle s'est distribuée sur d'autres ordinateurs qui sont aussi en train de la calculer en permanence. Et donc,
en gros, c'est comme s'il y avait un fichier partagé entre plusieurs personnes. Et si jamais, par exemple, vous vouliez faire disparaître un virement à un commandant libyen, et ben, à la Banque de France, il n'y a qu'un seul fichier à modifier. Et donc, c'est possible.
Voilà, c'est centralisé.
Alors que si c'était des crypto-monnaies, comme en fait chaque ordinateur du monde, enfin, pas chaque ordinateur, mais... beaucoup d'ordinateurs dans le monde a un petit bout de ce fichier Excel, mais en fait, tu ne peux pas le modifier. C'est juste c'est ce qui s'est passé et c'est tout.
Les autres ordinateurs vont simplement, par une sorte de réseau de confiance, le regarder et dire « Ah non, toi, là, tu as modifié quelque chose. On n'accepte pas ta modification. » Il peut y avoir des modifications de blocs qui arrivent au-dessus à un coût de recalculer toujours toute la base. Donc, c'est ce système qui est comme ça incrémental qui fait que y a beaucoup de personnes qui ont confiance dans ce système parce qu'ils se disent là il n'y a pas de tiers qui ont le contrôle pour faire une entourloupe dessus.
Et là récemment il y a des gens qui ont utilisé cette technologie là qui normalement est faite donc pour les échanges d'argent, les crypto-monnaies, pour l'utiliser sur de l'art numérique, c'est-à-dire tu fais une planche de Pepper & Carotte.
Ouais. Tu vois. Alors de dire pour de l'art numérique, ça aussi c'est un très gros raccourci. Moi, je dirais plutôt sur des jetons de titres de propriété.
C'est vrai. Oui, c'est en gros, c'est comme un certificat de propriété.
C'est ça. On change une base de registre inviolable pour une monnaie. On lui donne une capacité aussi de pouvoir enregistrer des titres de propriété et de devenir une sorte de base de données du droit d'auteur.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est pareil. Autant comme si on pouvait suivre un euro et savoir de quelle main en main il passe. Là, on peut suivre une œuvre, ou en tout cas un certificat de propriété.
Un jeton.
Un jeton. Donc, c'est pour ça token, NFT. Alors, non-fungible, ça veut dire que c'est pas remplaçable. C'est-à-dire que c'est un jeton.
Le fungible, c'est plutôt le côté de la monnaie. La monnaie est fongible, c'est-à-dire que 1 euro qui est dans ta poche et 1 euro qui est dans ma poche, si on se les échange, ils auront toujours la valeur de 1 euro. Et puis, ils n'ont pas un propriétaire, tu vois. Enfin, ils sont dans ta poche actuellement, mais voilà. Alors qu'un objet, tu peux lui attribuer une valeur qui est propre, qui n'est pas... voilà, ta télé, ton meuble, tu peux dire, à ce moment-là, il coûte 6. C'est un jeton qui vaut 6 de la monnaie, qui vaut après 20 de la monnaie. Il a sa valeur variable, alors que le 1, par exemple, Ethereum ou Bitcoin, restera toujours un Ethereum ou Bitcoin dans sa propre monnaie. Après, en relation à d'autres monnaies, oui, il y a des spéculations et des échanges.
Des variations.
Voilà. Ouais. Mais c'est au sein de sa propre monnaie. Là, le jeton de titre de propriété, au sein de sa propre monnaie, peut avoir une valeur variable. Mmh. Voilà.
Donc, comme une œuvre d'art, d'ailleurs, que tu pourrais
acheter. Ça peut être un service, ça peut être une propriété. C'est pour ça que derrière le NFT, beaucoup maintenant commencent à dire NFT égale art. Non, c'est simplement parce que l'art, n'ayant... déjà des grandes largesses, on va dire, au niveau d'attribuer une valeur, c'est idéal pour pouvoir jouer à faire de la valeur n'importe quoi dessus, quoi.
Oui, à faire spéculer, en fait, sur,
mais là,
sur de l'art. En
fait. J'avais entendu un reportage dernièrement qui parlait d'une joueuse de tennis, un tatouage, voilà, qui l'offre à celui qui obtient ce token, et en disant, ça fera de la publicité, parce que le tatouage sera visible quand je jouerai. Et dedans, dans le contrat, il y a tout ce qui est pour pouvoir retirer le tatouage et refaire un nouveau tatouage si quelqu'un l'acquérit. Enfin bon, la pauvre, elle va se faire charcuter les bras, mais bon.
oui, ça veut un peu tout et rien dire. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on arrive dans un truc totalement mental de ce qui est censé être le... après, tu me diras, l'argent est aussi une création totalement mentale. Mais là, on est vraiment sur... juste, on vend une sorte de concept qui peut exister. Genre, je fais un gif, là, maintenant. Je pourrais en faire un token.
Oui.
Et vendre ce gif en tant que...
Oui, parce que ce token-là n'est qu'un numéro de contrat. C'est un numéro de contrat. C'est comme si quand tu édites un contrat avec ton éditeur, et puis en haut, tu as marqué numéro de contrat, machin, et ça permet à l'éditeur de le retrouver dans sa base de données. Là, c'est pareil. Le jeton, en fait, parce que cette chaîne de blocs est extrêmement coûteuse à mettre des informations dedans, parce que il faut que tous ces ordinateurs-là calculent beaucoup pour pouvoir se mettre d'accord sur le dernier titre. Donc, on ne met pas des dessins en entier. On ne va pas mettre des fichiers qui font des mégas et tout ça dedans. Ça serait, voilà, on pourrait dans la base de données, techniquement parlant, mais ça serait extrêmement coûteux. Donc, on va préférer mettre un identifiant. Mais cet identifiant va représenter un fichier texte que lui, on pourra avoir référence, qui est un contrat. Et dans ce contrat-là, on peut mettre tout ce qu'on veut, un certificat de propriété. Il y a les jeux vidéo qui sont actuellement très intéressés pour tout ce qui est les bonus dans les jeux qu'on peut avoir. Ça a un avantage, c'est que actuellement, quand tu vois une œuvre sur Internet et que tu dis « Ah, t'es un éditeur, t'aimerais bien l'acquérir », mais c'est pas marqué vraiment à qui ça appartient. Si le truc est assez connu, tu vas sur Wikipédia, tu dis « Ah ouais, là c'est Disney, bon par exemple, là je sais que c'est acquis ». Et je sais à qui il faut que j'aille demander, en gros, le département légal de cette boîte. Mais pour un artiste sur son portfolio, c'est difficile. Là, tu vas pouvoir avoir une base de données que pas des tiers vont pouvoir trafiquer pour savoir qui a les droits actuellement. Mais sous couvert que les droits ne peuvent être obtenus que par une entité. Que les droits sont un jeton qu'une seule entité peut avoir aussi. Ça, c'est un peu...
Oui. Oui, c'est-à-dire que tu peux pas avoir des parts d'une propriété de quelque chose.
Ouais, ça, je pense que ça va venir. Ils vont réussir à le coder parce que moi, je vois, quand j'ai vu déjà le système, je me suis dit, déjà, ça, c'est quelque chose qui est manquant par rapport à ça. Parce que l'art, il y a quelque chose d'autre. Alors, comme c'est un contrat, il peut y avoir aussi des NFT qui sont un peu plus sympas avec les auteurs. Puisque ça retrace toutes les transactions qui vont dire on va reverser 15% par exemple toujours de la transaction future à l'auteur original. Ouais. Donc même si tu achètes à 60 millions quelque chose, l'auteur original, même si ça fait 10 fois qu'il l'a vendu, va toujours gagner quelque chose. C'est un contrat traçable, donc tu peux y mettre ce que tu veux.
Ouais. Mais ça, justement, tu vois, je pense à un truc de... Je crois que c'était Taylor Swift qui voulait récupérer, tu sais, les droits de son premier album. Et en fait, ça c'est arrivé à un point où tu vois, ça, encore une fois, la boîte de prod et sa production musicale avait revendu les droits. Et en fait, à un moment, elle les cherchait presque, tu vois.
Ouais. Non, mais
les droits de son propre album. Et du coup, pour garder au moins son droit moral, elle a dû réenregistrer son propre premier album. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, oui, il y a un côté, encore une fois, on s'affranchit du côté de possible entourloupe ouais. Parce qu'on sait où et quoi à ce niveau-là.
Ouais, moi, j'ai un éditeur qui a mis la clé sous la porte. Banqueroute, ça existe, tu vois, un truc comme ça dans mes jeunes éditions. Mais que son catalogue a été racheté par un tiers qui, après, a revendu encore à un autre tiers. Dans mon contrat original, c'est marqué qu'à chaque fois que le contrat est recédé à un autre tiers, parce qu'il y a ça qui existe dans les contrats originaux, que je dois toujours avoir 10% si c'est réédité ou pas. Mais par exemple, moi, si j'ai envie de faire la chasse à tout ce qui a été contractualisé sur mes anciens jeux de société ou mes anciennes couvertures, c'est à moi d'aller sur Internet et de regarder si, par exemple, en Roumanie, si le livre est en train de sortir avec ma couverture. Et de mettre à l'éditeur sous le nez que j'ai le contrat original et qu'il a acquéri sur ça, sur ça, sur ça.
Oui, parce que eux, en fait, ils vont pas lire la clause, ils vont faire genre, bon, tant qu'ils s'en rendent pas compte, ça va.
Et ça, c'est le problème de tous les éditeurs actuellement. C'est à toi, en fait, de faire la chasse à tes propres droits, pour tout ce qui est couverture et compagnie, parce que c'est à eux de faire l'arbitre et de faire aussi le porte-monnaie. Donc...
Ouais, donc il y a clairement... En gros, des bonus à l'existence de juste la technologie de NFT, en tout cas pour
les artistes. Et ça, je le reconnais. Oui.
Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, mais comme tu disais, comme dès qu'on fait rentrer un nouveau contrat, donc un nouveau NFT dans le système, ça demande pas mal de calculs sur tous les ordinateurs. On l'a expliqué un peu tout à l'heure, dès que voilà. Et ça, techniquement. Pour l'environnement, c'est un peu moyen. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va demander à beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité sur des serveurs, des ordinateurs.
Ça, c'est une des critiques de toute chaîne de blocs. Après, les chaînes de blocs ont des technologies différentes. Il y en a certaines qui, par accumulation, par machin, je sais plus. Là, ça dépasse mes compétences. Mais il y en a certaines qui promettent d'être plus vertes, plus voilà, que d'autres.
Oui.
Mais par exemple, dans les NFT, si tu postes ton GIF sur une plateforme, il y a de grandes chances qu'elle ne soit qu'en promesse de NFT, c'est-à-dire que c'est à la première transaction qu'elle va devenir réellement un NFT. Au début, elle va devenir simplement un identifiant sur le site et ton truc, mais elle n'est toujours pas dans la blockchain parce que rien que pour pouvoir récompenser les serveurs qui vont faire ce calcul, c'est que ces serveurs, ils ne font pas le calcul de façon gratuite, ils font le calcul parce que dès qu'ils arrivent à se mettre d'accord, à synchroniser, à ce qu'on appelle minter quelque chose, pareil, là, ça dépasse mes compétences, je suis en train peut-être de dire de la merde, à ce moment-là, ils reçoivent de la monnaie. Donc, pour pouvoir payer de la monnaie là-dessus, il faut que ça soit pris sur la transaction qu'ils demandent aussi. Donc, en gros, j'avais lu sur un article, ça c'est à vérifier, je ne sais pas, que là, ça coûte en gros, sur le NFT qui sur Ethereum, ça coûterait en gros $110 minimum pour que le NFT soit minté, arrive dans la blockchain. Donc, que les prix en dessous de ça, voilà, en Ethereum, parce que je parle en dollars, parce que tout le monde parle en dollars là-dessus, hein, 60 millions, machin, mais on n'est que sur une valeur fictive de l'Ethereum si la personne arrive à le revendre. Donc, ça montre déjà aussi qu'il y a un coût d'entrée qui va être nul à la base par rapport à la personne qui veut le mettre sur ses sites, en attente, c'est-à-dire en attente d'un acquéreur, d'un premier acquéreur, mais dès qu'on va vouloir acquérir la chose, rien que pour pouvoir la rentrer dans la base de registre, ça va aussi avoir ce
coût. Il y aura un minimum de ce coût.
De ce coût.
Après, je sais pas.
Qui est environnemental aussi, comme tu le soulignais, ouais.
Ouais, à voir. Je t'avoue que c'est vrai que je ne sais pas du tout quel est le coût et si ça bougeait ou pas.
J'ai essayé de calculer, là, parce qu'il montrait en kilos de CO2. Ce que ça coûtait de faire à la seconde, il y a un truc qui le montre, mais après j'ai essayé de trouver des comparaisons parce que je me suis dit allez, ouais, quand je vais en parler, je vais pouvoir dire si c'est un aller-retour entre Montauban et Toulouse avec un camion ou avec un avion, ou voilà, j'aurais voulu avoir un truc comme ça. Ben non, j'ai pas trouvé, c'est difficile.
Ouais.
Moi j'aimerais bien avoir un truc un peu parlant comme ça, dire
Oui, oui, ce serait pas mal de dire, bah, écoute, ça fait en termes de kérosène un Paris-Rio, tu vois, ou un truc comme ça, mm-hmm. et d'empreinte carbone plutôt.
Oui, oui, parce
et que... Je sais pas ce que j'ai avec le Brésil en ce moment.
On a envie d'échappade, on a envie d'exotisme.
Même si je crois que ça va pas très bien non plus là-bas, vu qu'ils viennent de fermer les frontières, en tout cas avec la France, c'est pire avec le Covid. Oh. Mais pourquoi les gens de la tech aussi en parlent pas mal, c'est qu'en fait, c'est juste une manière, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir réintroduire de la rareté sur quelque chose qui pouvait être un peu, entre guillemets, ubiquitaire quand on parle juste d'art
oui,
numérique, tu vois.
Mais aussi de bonus de jeux vidéo, de services publicitaires, enfin, de tout. Mais ça introduit l'unicité, c'est sûr. Mm. Et aussi, ce qui se passe beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont fait... bon, ces crypto-monnaies qui investissent dedans. Et elles sont, comme toute crypto-monnaie, le nombre d'unités au sein de la crypto-monnaie est limité. Ce qui fait qu'à chaque fois que des personnes vont vouloir en avoir sur leur portefeuille, elle va prendre automatiquement de la valeur. Ce qui fait qu'un bitcoin égale 20 000 dollars, je ne sais plus quoi. Je ne suis pas du tout à jour. Hein.
Écoute, là, on est à 62 000. Là.
62 000, tu vois, je ne suis même plus à jour. Moi, j'ai les chiffres de 2017 en tête. Mais, mais c'est pour dire qu'il y a des gens qui se sont vachement enrichis. C'est-à-dire qu'en gardant 2 bitcoins depuis 2015, ils ont beaucoup de cet argent. Et le problème, c'est que s'ils le laissent en tant que sur leur compte, en tant que Bitcoin, et si la monnaie s'effondre, ben, quelque part, vaut mieux le réinvestir. Mais si tu le réinvestis au sein même de la monnaie, dans des jetons, parce que, ben oui, même si tu achètes une œuvre 60 millions, ce qui est l'équivalent de 60 millions, ça ne veut pas dire que tu bouges réellement 60 millions, ça veut dire que tu bouges quelques Ethereum ou Bitcoin.
Ouais.
Pour le faire. Donc, il y a des personnes qui se sont beaucoup enrichies dans cette monnaie-là, mais qui ne la repassent pas dans le réel et qui vont acheter ces NFT avec ça. Parce qu'on voit quelqu'un qui achète une œuvre 50 millions ou 60 millions, c'est pas en sortant 60 millions d'un compte en dollars. C'est avec des monnaies qui ont pris de la valeur spéculative depuis des années. Donc, je souhaite, moi, aux artistes qu'ils arrivent vite fait à le sortir. Sortir le truc et puis dire, oui, payez-moi les Ethereum que j'ai reçus vite fait en dollars. Et que pour que ça marche, ça, il faut qu'il y ait d'autres artistes qui viennent sur la plateforme et qui disent, bah, je veux, moi aussi. Donc, je veux mettre mon NFT. Je veux que ma famille me dise, ah, ben, on va t'acheter, gamin, ton premier NFT. Ah, oui, ça coûte 110 pour la première. Et ils vont investir là du vrai argent qu'ils vont injecter dedans. Moi, c'est pour ça que je vois là-dedans un système pyramidal, c'est-à-dire où il y a des têtes, enfin des grands exemples, moins de 10% de grands exemples formidables, que tout le monde va applaudir le gros chiffre, parce que voilà, c'est wow, il y a beaucoup d'argent.
Oui, et c'est déjà des gens connus, c'est déjà des gens avec un following ou des choses comme ça. En fait, c'est déjà des gens qui... À qui, en fait, ça va juste rajouter le même level d'argent qu'ils gagnent de toute manière. En fait,
oui,
c'est juste ça, quoi.
Et puis surtout, personne n'aurait, par exemple, dépensé là-dedans s'il n'y avait pas les grandes galeries d'art qui n'avaient pas commencé à donner leur accord à leurs clients dessus. Il y a le Covid, ça a accéléré beaucoup les choses. Les galeries d'art, j'imagine mal qu'il y a des personnes qui se déplaçaient avec les masques pour faire des vernissages. Je pense que les vernissages sont tous plus ou moins fermés. Donc, que le marché de l'art essaye de se recycler et donne ces grandes galeries leur confiance à dire si vous investissez dans celui-là, c'est inviolable, donc on peut voir, on peut tracer l'argent et vous mettez de la valeur là-dedans. Il y a des grands noms comme le patron de Twitter, Elon Musk, qui donnent à ces monnaies beaucoup de crédit et tout d'un coup, ça met une sorte d'indice de confiance énorme dessus. Que les gens peuvent se dire « Ah oui, là, je vais investir dedans. » Et ça donne aussi cet indice de confiance pour plein de jeunes artistes qui vont se dire « Ah, mais je vais casser mes sous pour pouvoir essayer avoir quelques transactions dans mes œuvres. » Et moi, je pense que ça va représenter ça 80% de
ce qui va... Bien sûr, des vrais gens.
Des vrais gens et de ceux qui vont alimenter la machine, quoi, tu vois.
Oui, oui, parce que en fait, aussi, je veux dire, Elon Musk, c'est pas pour rien qui donne du crédit à ça, c'est qu'en fait, il a acheté énormément de crypto-monnaies. Donc, si tu veux, à chaque fois qu'il tweet pour dire « Putain, c'est vraiment génial, les bitcoins », tout le monde rachète des bitcoins. Lui, il en a déjà. Donc, lui, ça, tout ce que ça fait, c'est que son tweet lui rapporte littéralement des millions de dollars parce que plus de gens augmentent le cours du Bitcoin. Ouais. Donc oui, effectivement, le fait de, aussi de promouvoir le truc des NFT, et comme tu dis, avec un coût d'entrée pour n'importe quel artiste, c'est juste qu'en fait, l'artiste qui gagne déjà pas de ouf, tu vois, je veux dire, il gagne 400 dollars justement avec son Patreon, il se dit, ah mais tiens, peut-être ça vaut le coup de, que je mette 100 dollars pour que je fasse rentrer un truc. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il va le vendre, en fait, parce que, encore une fois, si bah, t'es pas connu, enfin, tu vois, si t'es pas connu, t'es pas connu.
Ben, bah, si,
c'est,
voilà.
C'est le truc, si,
la valeur,
si t'arrives pas à le vendre voilà. dans la vie normale, tu vas pas le vendre en NFT.
On ne crée pas de la valeur en étant là-dessus. Enfin, avoir un NFT, c'est comme de dire, j'ai ouvert un compte bancaire. C'est pas pour ça que t'as oui, du fric ça. Qui va tomber dessus, quoi.
Cela dit, comme c'est un truc nouveau, et là, on en revient un petit peu au même esprit de la personne qui souhaite peut-être un jour franchiser le truc, c'est que tu dis, ouais, mais si je fais partie des premiers, peut-être que je vais être plus facile à voir, peut-être que du coup, on va, mon œuvre que je mets là en NFT, elle a plus de chances peut-être de se faire racheter ou un truc comme ça. Ouais. Mais en fait, tout ce que ça fait, c'est que ces 110 dollars donc, qui sont donnés, qui ils vont donner du coup de la valeur à, tu l'as dit, l'Ethereum, donc une crypto-monnaie. Et en fait, du coup, ça va donner juste de la valeur à des gens qui ont déjà ces crypto-monnaies, donc Elon Musk, encore une fois.
Et ceux qui donc, ont vendu ces gros, grosses œuvres qu'on voit.
Bien
Mais
sûr.
Un indicateur pour les gens qui se croient pionniers maintenant parce qu'ils vont dans les NFT, c'est que dès que les médias s'en emparent d'un sujet, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que ça, c'est ce que j'ai vu dans tous les systèmes, c'est-à-dire que les early adopters, ceux qui adoptent quelque chose, qui croient en quelque chose... C'est pas pour rien qu'ils sont early, c'est parce que toujours ils le font à un moment donné où il y a un grand risque. Et ceux qui ont investi au début dans ces NFT et sans qu'il y ait les médias, oui, ils avaient mis leurs billes, les CryptoKitties, les Punkhead et compagnie, ce sont des gens qui ont fait des NFT en 2017 et compagnie déjà. Et ça, on n'en entendait pas parler à ce moment-là. Maintenant que ces choses-là valent des grandes valeurs, c'est normal, ils ont été pionniers dedans. Et on va dire que le marché qui essayait déjà de faire des transactions pour blanchir leur fric et faire de l'évasion fiscale dedans, ben, que ça soit un pixel art ou une œuvre, ils n'en ont rien à taper. Ce qu'ils veulent, c'est qu'un nombre de jetons significatif. Voilà. Ils n'achètent pas l'art, ils achètent le jeton. C'est ça.
Ouais.
Après, je suis sûr que demain, un artiste qui fait déjà beaucoup de spéculations comme Jeff Koons ou quelque chose fait du NFT, ça va fonctionner d'enfer parce que, bah oui.
Mais en fait, j'aime bien parce que toute cette discussion, c'est juste la version du capitalisme, mais en microcosme, où en fait, on te fait miroiter le fait que toi aussi, tu peux devenir un millionnaire en te montrant les quelques Jeff Koons, justement, qui ont vendu leurs œuvres avec des millions de dollars, et en te disant, attends, mais moi aussi, en fait, je pourrais faire ça. Alors qu'en fait, tout ce que ça fait, c'est juste enrichir les gens qui ont déjà le capital, tu vois.
C'est une vision moderne de la ruée vers l'or, tu sais. T'as tout le monde qui va avoir les pieds dans le sable, là, avec le truc à galérer, à filtrer, parce qu'il y a deux Pékin qui ont trouvé une grosse pépite, quoi.
Oui, oui. Non, mais et encore, c'est pas... Tu vois, c'est en l'occurrence, comme la ruée vers l'or, en général, les gens qui ont trouvé de grosses pépites, c'est parce qu'ils bossaient dans une mine d'or ou alors plutôt qu'ils ont été engagés par quelqu'un qui a engagé 15 personnes et qui prend quand même 50% de la pépite, tu vois.
Oui.
Et qu'en vrai, tu l'as jamais vu, tu as juste entendu parler du gars qui a eu la grosse pépite d'or.
De toute façon, à chaque fois qu'il y a une promesse d'argent facile et passive, ça affole les foules. Bah oui, argent facile, mais dès qu'il y a un système comme ça qui commence à avoir, je sais pas, des signes d'entrée payante, de promesses de haut retour, je sais pas, blanchiment d'argent, les transactions au sein de l'Ethereum ne sont toujours pas taxées. Ça intéresse beaucoup de personnes. Au sein même de l'Ethereum. C'est-à-dire que...
Ah oui, oui, tant que tu ne le transformes pas en monnaie fiduciaire en euros. Je sais qu'en France, il faut pouvoir transformer une crypto-monnaie en euros pour être taxé à hauteur de 30% sur le bénéfice, je crois.
Ouais,
il
y a un truc comme
ça. Mais si tu restes sur de la crypto-monnaie, oui, effectivement.
Bon, moi, c'est vrai que, par exemple, pour Pepper et Carotte, on m'a beaucoup demandé de mettre la crypto-monnaie pour faire des donations. Je me suis renseigné à la Banque Nationale de France pour savoir comment je pouvais déclarer ça et quelque chose. Et j'ai tout de suite annulé, quoi, parce que c'était trop le bazar. C'était pour suivre les cours, pour essayer de ça. Puis après, je m'en mords un peu les doigts parce qu'il y a une chose que je n'avais pas entrevue, c'est de mettre cet identifiant crypto-monnaie et simplement dire, allez, je vais mettre de l'argent en crypto-monnaie dessus et que ça va dormir et ça va prendre de la valeur. Et dès que ça sera ces questions fiscales beaucoup plus claires, c'est là que je transformerai cette crypto-monnaie en argent et que je pourrai le déclarer, par exemple.
Mais, oui, bien sûr.
Mais voilà, bon... C'est sûr que ouais, 50 centimes de Bitcoin à l'époque. mais c'est vrai que derrière donc, ce NFT, moi, dès que les personnes m'ont demandé de m'exprimer sur le sujet, je n'ai pas été très long parce que je n'ai pas les compétences. Je ne suis pas très technique sur le sujet, mais je me suis renseigné de façon personnelle, savoir qu'est-ce que j'en pensais. Et j'ai dit, je ne suis ni d'accord, dans un tweet simplement très phasé, ni avec la technique, ni avec je sais pas, l'éthique qui est derrière. J'ai peut-être formulé ça différemment. Et c'était pour dire la technique, bon, par rapport à ce problème environnemental, ce problème de beaucoup de machines qui travaillent en même temps, voilà, je ne suis pas d'accord avec cet aspect-là de la technique. Et le côté éthique, c'est qu'on a simplement une base de données qui est là pour renforcer le titre de propriété, le copyright, le droit d'auteur quelque part. Et moi, avec ces licences libres, avec la Creative Commons, c'est pas ce que je veux. Je trouve que ça casse l'innovation. Hein, je préférerais que les gens puissent faire des dérivés, faire des choses. Donc, c'est pour ça que le NFT, moi, je vais passer mon chemin dessus. Il y a quelqu'un qui a essayé de mettre un de mes dessins en NFT.
Oui.
C'est là où j'ai trouvé aussi que c'est très difficile de savoir qui a le titre de propriété à la base avant de le mettre dans cette base de données. Oui. Parce que, ben voilà, quelqu'un peut prendre, voler avant de le mettre dans la base de données et dire c'est mon titre de propriété, c'est comme s'il y avait tout un univers virtuel sur Internet à cadastrer, quoi, quelque part.
Oui, on passe du vrai monde au monde digital. Donc, il y a le côté, si tu peux encore magouiller tant que tu ne rentres pas dans le monde digital. Parce qu'imagine, tu ne serais pas tombé sur le truc. Mm. Tu ne serais pas tombé sur cette image-là et il y aurait eu 15 transactions. C'est la 15e personne qui l'a acheté. Et toi, t'es là, mais en fait, à la base, ça appartenait même pas à la toute première personne. Vous êtes tous des receleurs.
Oui, voilà, c'est ça. Et c'est difficile. Et donc, tout se base déjà sur un contrat de confiance. Ces grandes galeries qui disent ce compte-là d'artiste est réel parce que c'est notre artiste. On est une grande galerie. On vous dit que ça, c'est le vrai. Et donc, c'est pour ça que les gens investissent dessus. Et il y a de la confiance. Et c'est pour ça que pour tous les petits artistes, tout ça, qui voudraient se lancer à corps perdu dedans, bah, ça va être très dur de certifier que c'est du vrai parce que bah, les acheteurs, avant de débourser même $1000 dessus, ils vont vouloir s'assurer vraiment de qu'est-ce qu'ils prennent. Parce que quand on achète qu'un jeton de titre de propriété, eh bah, il faut avoir une sacrée confiance que ce jeton est bien relié à l'œuvre réelle quelque part.
Et surtout quand on a vu, je sais pas si t'as vu le documentaire sur la galerie d'art new-yorkaise qui a dû fermer parce que justement elle vendait des faux.
Non, j'ai pas vu.
Merde, faudrait que je retrouve le nom, mais c'était assez fou parce que en gros, il y a un artiste chinois qui copiait des trucs. Je crois que même lui, il était pas au courant qu'on vendait ces trucs pour des vrais, tu vois.
Ah là là.
Mais voilà, il suffit d'avoir la personne ou l'institution qui est censée, qu'on regarde avec beaucoup de déférence et qui dit bah, ça c'est super vrai, tu vas te régaler, tu devrais mettre 20 millions de dollars dedans. Et que 4 secondes après, on te dit ah, mais les pigments utilisés dessus n'existaient pas à l'époque. Ben voilà.
Ouais, c'est ça. Bah, le NFT, en général, moi, si on aurait, par exemple, des réacteurs super propres, là, tu sais, comme le projet ITER on aurait de l'électricité, par exemple, à volo. On aurait des machines qui feraient des calculs quantum, machin, on calculerait 500 000 fois, voire des millions de fois plus vite que maintenant. La base de données partagée,
franchement,
pourquoi pas?
Après, là, s'il y avait cette technologie-là, je t'avoue, je m'en foutrais un peu des NFT, quoi. Genre, je serais très heureux. Genre, tu vois, on aurait des robots qui feraient de l'agriculture et avec de l'énergie illimitée.
Pourquoi pas penser que ces bases de données partagées de crypto-monnaies, dans un schéma complètement dystopique du super-libéralisme, deviennent des monnaies mondiales? C'est qu'elles sont déjà.
Oui. Oui, c'est vrai.
En résolvant ces problèmes-là, ça résout quand même pas mal de problèmes de corruption.
C'est vrai.
Il y a du bon quand même.
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au blockchain et au fait que, effectivement, si d'un coup, bah, tous vos impôts, vous les payez en bitcoin et compagnie, il n'y a plus personne qui peut. Il y a plus de Balkany, tu vois. Il y a plus de.
C'est retraçable.
Il y a plus de choses tout comme est, ça. Bah oui, c'est retraçable.
Tout est, devient plutôt transparent et retraçable. Après, moi, ce que je. La dernière partie que je vais reprocher, c'est ce titre de propriété, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui a été créé sur. Pour moi, un système archaïque du titre de propriété. On voit très bien que les gens qui réutilisent des petits fragments de films pour faire des mèmes sur Internet, qui vont utiliser des choses, ils ne voient pas qu'en fait, qu'à chaque fois qu'ils mettent ça dans leur vidéo ou quelque chose, leur vidéo devient propriété en fait de la personne qui a fait ce tournage et qui a empoché cet acteur, parce que oui, c'est un fragment et que... Là-dessus, il y a plein de problèmes et ces NFT, pour moi, apparaissent comme, pour l'instant, une méthode qui va plutôt renforcer ce système archaïque de droit d'auteur.
Bien sûr, oui.
Parce que...
Mais c'est vrai que, pour le coup, par contre, si on va dans le contraire, si on va dans un monde utopique, c'est vrai qu'on pourrait, à ce moment-là, redonner une partie de la valeur du travail de chaque personne sur une œuvre ou des choses comme ça. Et... à perpétuité, chacun pourrait avoir le rendement qui lui est dû en fonction de la valeur de la chose. Mais qui serait
complètement, vu qu'on est sur un jeton de titre propriété de contrat, on peut certifier ce qu'on vaut dans le contrat et faire des choses qui sont un peu fair trade, tu sais, comme remettre au petit producteur, ça devient possible et traçable. Donc, pourquoi pas? Si un artiste décide, comme moi par exemple, de faire du Creative Commons Attribution, mais que non commercial et que la partie commerciale soit gérée par NFT, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis pour que les règles soient simplement bien affichées, que les gens sachent quoi faire avec les dessins. Et c'est vrai que ce NFT peut ajouter de la transparence pour la partie commerciale.
Ouais, c'est ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'avec des NFT fair trade, même un paquet de café, on pourrait retracer
pourquoi
tout
pas.
Le truc
pourquoi pas.
Pour se dire, écoute, il y a telle et telle personne qui ont bossé dans les, les trucs de café.
Ce n'est plus le vendeur de café qui a la base de données pour savoir à qui il a vendu, combien il a acheté, mais ce sont presque des données publiques,
Ouais, et puis surtout, parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc, c'est quand tu rends les trucs publics, tu peux te dire, attends, ce litre de lait que j'achète, au final, il n'y a que 0,0001 centime qui va vers le gars qui a trait la vache, et voir aussi quelle est la grosse partie qui est prise par rapport à peut-être pas le vrai labeur, tu vois.
Oui.
Mais bon, là, c'est clair que ce serait un truc utopique, mais en tout cas, la technologie... Ça pourrait aussi servir à tout ça.
Ça pourrait servir à tout ça, et comme ça pourrait être servi dans le bon sens ou dans le mauvais sens, moi, d'une nature assez pessimiste sur l'humanité, je vais dire que ça va utiliser dans le mauvais sens.
Je suis assez d'accord avec toi.
C'est pour ça que je me suis positionné de façon préventive assez négativement sur le sujet. Mais j'aime bien que dans cette discussion, on puisse aussi souligner que s'il y a des gens pas cons qui s'en emparent, qui veulent faire des choses bien et des choses pour l'humain, il y a moyen de le faire.
Et je pense peut-être même attirer du coup des gens vers ça, parce que tu vois, encore une fois, si on a une marque qui décide d'être ultra transparente via cette technologie, en fait, c'est un peu comme le label bio, ou d'ailleurs le label équitable, tu pourrais te dire, moi j'achète que cette marque parce que ils sont tellement transparents, on sait ce qui se passe, on sait qu'ils gagnent de l'argent avec ça, etc.
C'est peut-être ce qui va se passer.
Ça peut donner envie aux autres. Ouais, peut-être. Mais bon, il faut déjà la première qui est un peu les balls de dire ça. Et c'est sûr que ça va pas être la... disons que ce sera jamais la marque qui engrange le plus de bénéfices que pour 4 actionnaires.
Bien sûr, ça sera la niche, comme d'habitude.
Oui, voilà.
Mais je pense que ça va venir parce que, comme toute... partie industrielle qui devient énorme, il y a toujours la niche qui se crée, et il faut espérer que cette niche-là devient assez succès pour donner aux autres l'idée de se un peu faire ce greenwashing, et puis aussi se mettre comme
ça. J'espère qu'on a été clair pour les gens. On a parlé de beaucoup de choses, pour le coup.
On a parlé beaucoup de choses, et moi, je plains le garçon qui va être au montage.
Non, moi j'adore, au contraire, moi c'est typiquement les choses que j'aime bien. J'adore quand on parle de beaucoup de choses parce que ça fait comme une vraie. Enfin, parce que c'était une vraie discussion.
Ouais,
plutôt que d'avoir, tu vois.
C'est assez entremêlé au final, que les problèmes de droit d'auteur, les problèmes de rémunération de l'artiste.
C'est vrai. C'est vrai que tout ça, c'est un peu les mêmes sujets, quoi qu'il arrive.
Ouais.
Ben, merci beaucoup, du coup, David. Où est-ce que de toute façon, je vais mettre le lien de ton site où on peut lire les webcomics. Est-ce que tu vas sortir, est-ce qu'il y a un nouveau tome, par exemple, chez Glénat qui va sortir bientôt ou pas spécialement? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas faire ou juste des planches qui vont sortir? De toute façon, tu les sors régulièrement, quoi qu'il arrive.
Ouais, les épisodes continuent de sortir sur le site internet et je continue de recevoir la rémunération uniquement quand je sors un nouvel épisode. Donc j'invite tous les lecteurs qui kiffent la série d'essayer de se mettre pour que je vive de mieux en mieux et puis que je puisse investir mieux sur le petit écosystème Pepper et Carotte. Et par rapport à Glénat, dans leur calendrier, je crois que c'est pour la fin de l'année qu'ils ont le tome 4. Enfin, ils m'ont déjà commandé la couverture, donc ils vont commencer le marketing et tout assez bientôt. Mais je suis à plus qu'une trentaine de pages de finir le tome, donc sur des albums de 70 pages, c'est plutôt pas mal. J'ai passé la moitié, là, je suis content.
Ah, la moitié en avril, c'est cool, du coup.
Ouais. Pour la fin de l'année, ouais, c'est pas mal.
Mais parfait, merci encore. Et je te dis bisous.
Merci à toi.
Prochaine.
Bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.